Les matins de France Culture.
Et donc le billet politique de Frédéric Seyss, ça fait aujourd'hui un an qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée. On voit fleurir un peu partout des bilans. Vous avez choisi de vous demander ce matin où en étaient ses prédécesseurs au bout d'un an de pouvoir, Frédéric.
Une présidence ne se juge pas sur la première année, mais elle se joue sur la première année. Phrase signée François Hollande en 2013, précisément au bout d'un an à l'Élysée. Il est vrai que le bilan final du quinquennat était déjà en germe. Échec à faire baisser le chômage, fiscalité en hausse, loi sur le mariage pour tous adoptée dans la douleur et sur la scène internationale, une certaine martialité contre le terrorisme, voici ce que TF1 en disait après un an de pouvoir donc le 6 mai 2013.
La loi sur le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels restera la grande réforme de société très contestée de cette première année. Mais le droit de vote des étrangers, lui, n'est plus à l'ordre du jour. Enfin, le Mali.
Je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique.
Et à l'issue de cette première année de pouvoir, François Hollande dévisse lourdement dans les enquêtes d'opinion. 15% des Français jugent alors son bilan positif. C'est 35% pour Emmanuel Macron au bout de 12 mois à l'Élysée, selon l'Institut Sophrès Kantar. L'actuel président fait mieux également que Nicolas Sarkozy. Après un an à la magistrature suprême, le président issu de l'UMP a perdu 25 points de popularité. L'étalage de sa vie privée a agacé l'opinion, autant que le manque de résultats économiques concrets. Bilan dressé à l'époque en 2008 dans le 20h de TF1.
Avec des promesses réalisées, bouclier fiscal, droit de succession allégé, heures supplémentaires défiscalisées et rachat des RTT. L'objectif, lui, est loin d'être atteint. Nicolas Sarkozy mettra 8 mois pour l'admettre.
S'agissant d'ailleurs du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous attendez de moi ? Que je vide des caisses qui sont déjà vides ?
Emmanuel Macron plus haut que Nicolas Sarkozy, mais moins que Jacques Chirac à 47% de popularité en 1996. Un an après son accession à l'Élysée, le président Chirac reste soutenu par une bonne partie de la droite, mais ce socle dans l'opinion masque la perte de confiance des premiers mois chaotiques de la reprise des essais nucléaires aux grandes grèves de 1995. Le candidat Chirac avait fait campagne sur la fracture sociale. Le voici à l'Élysée qui impose la rigueur. Extrait du journal de France 2 du 8 mai 1996.
Déjà, l'agitation se développe sur un autre terrain, le terrain social. Le discours sur la rigueur est perçu comme contradictoire avec les promesses électorales.
La priorité, c'est la réduction des déficits. Et pour cela, il faut prendre des mesures qui peuvent être en contradiction avec ce que l'on veut faire plus tard.
Et cela se paiera électoralement un an plus tard, en 1997, lors de la fameuse dissolution. Valéry Giscard d'Estaing, après un an de pouvoir, était encore apprécié, bilan jugé positif, par 56% des sondés, à l'époque, contre 29 pas convaincus. Cela notamment grâce au dépoussiérage de la fonction présidentielle.
Pour le premier des Français, être président en 75, c'est conduire soi-même sa voiture, passer des vacances de simple citoyen à la mer en août, à la montagne en février, mais aussi dîner chaque mois dans une famille, en compagnie d'Anémone Giscard d'Estaing et faire participer réellement la présidente à la vie publique et même politique.
Mais le parallèle le plus intéressant pour Emmanuel Macron, c'est avec François Mitterrand, bien sûr pas sur le fond de la politique, mais dans les deux cas, au bout d'un an de pouvoir, les Français estiment que ce qui avait été annoncé pendant la campagne est mis en œuvre. En 1982, François Mitterrand n'a pas encore emprunté le tournant de la rigueur et dispose toujours du soutien de 54% des Français. Autre point commun, les deux hommes dont on contestait la présidentialité pendant la campagne ont réussi à se glisser assez vite dans le costume de président, notamment sur la scène internationale. Écoutez cette archive de 1982, on n'y parle pas de Macron et de Trump, mais ce n'est pas si loin.
C'est sa première rencontre, il y en aura quatre, avec Ronald Reagan. Les convictions philosophiques et économiques opposent les deux hommes, le contact est pourtant cordial. François Mitterrand apparaît peu aux Français. Deux voyages officiels en province, une conférence de presse, un entretien télévisé aussi, où il annonce la poursuite du changement amorcé.
Le président de la République dispose d'un mandat de 7 ans, il ne s'agit pas de l'exécuter en 6 mois, ce qui est prévu pour 7 ans.
Alors sur la longue période, à l'aide de ces études d'opinion, on observe que tous les présidents ont été plus impopulaires que leurs prédécesseurs au bout d'un an. Illustration sans doute de la montée de la défiance, du scepticisme à l'égard de la vie politique. Seul contre-exemple, Emmanuel Macron donc, jugé plus positivement que Nicolas Sarkozy et François Hollande. Mais ce qui frappe dans le détail des réponses, c'est en fait l'attentisme. Selon BVA, 43% des sondés veulent attendre les résultats avant de se prononcer définitivement, presque 1 sur 2, sous-entendu. Et si ça marchait, au moins au plan économique, une sorte d'attentisme hésitant, comme il y en avait jadis pour le sorcier qui promettait de faire tomber la pluie en période de sécheresse, car c'est bien un ruissellement que promet Emmanuel Macron, même s'il rejette le mot, il reste 4 ans pour le faire advenir.
On va faire réagir Yves Michaud. Intéressant cette proposition de Frédéric Saïs, cette mise en perspective, ces parallèles avec Sarkozy, Hollande, Chirac, Mitterrand, Giscard d'Estaing.
Oui, c'est très intéressant. Ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que Macron s'y est pris différemment. La plupart des hommes politiques, en général, essayent d'avancer leur programme réforme par réforme. Et puis, il se casse le nez sur la première, et ensuite, rien ne se fait. Et ici, depuis un an, on peut considérer que c'est une sorte d'agitation tous azimuts, mais je crois que c'est la bonne manière de faire des réformes.
Il y a un changement de méthode.
Bonne manière de faire des réformes, parce que de toute manière, déjà psychologiquement, ça fait rentrer dans la tête des gens que quelque chose changera. On ne va pas se bloquer sur un problème qui serait la SNCF ou la CSG, mais quelque chose, les gens, d'une certaine manière, se résignent à ce qu'il y ait du changement. Et puis, en même temps, c'est vrai que, comme de toute manière, il y a toujours des blocages, autant faire une sorte de évidemment, il ne faut pas se faire tomber l'armoire sur la tête en voulant la ranger, mais je crois qu'il faut absolument prendre les choses tous azimuts. Et de ce côté-là, c'est pas de l'agitation chez Macron, c'est qu'il a bien compris que si on veut faire bouger les choses, il faut s'attaquer à tout à la fois.
Et
je crois que c'est la raison pour laquelle les Français, d'une certaine manière, sont attentistes, mais comprennent que peut-être qu'il y a des germes de changement. Encore une fois, je vous dis, la réforme des retraites dira quelque chose. Et puis, les résultats économiques, vous avez vu ce qu'on a dit sur la Tunisie. Je connais bien la Tunisie, j'y vais tout le temps. Je veux dire, la Tunisie crève d'une économie, mais qui est en dessous de zéro. Je veux dire, et donc, tout s'explique à partir de l'économie. Après, on voit le projet social ou le projet religieux, etc. Mais quand les gens crèvent de faim, ou sont pauvres, comme je vous disais, de la France aujourd'hui, je veux dire, les gens attendent que les changements viennent d'abord de là.
Merci beaucoup Frédéric Saïs. On peut retrouver votre billet politique sur le site de France Culture.